France Bleu, RCFM.
France Bleu.
Yeah.
How?
How?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Jean-Pierre Acquaviva m'accompagne ce soir. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir, il y avait longtemps qu'on ne s'était pas vu, je suis heureux d'être de retour.
Oh ben moi aussi je suis heureuse de vous accueillir puisque nous allons parler d'un film documentaire et de la parution également d'un roman. Et il faut dire que c'est la même personne qui produit ce documentaire et qui produit ce livre dont nous allons parler ce soir. Elle est donc journaliste et réalisatrice de documentaire et tout récemment romancière, et c'est un vrai plaisir de la recevoir.
Qui est là ?
Bonsoir, qui est là ?
Marie Christiani.
Bonsoir Marie Christiani.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci infiniment d'être avec nous pour nous parler d'une double actualité. D'une part, la parution de votre roman, votre premier roman, Monfredo, paru aux éditions Arcane 17. Et puis, un film documentaire que nous avons pu voir vendredi dernier. Alors, c'était peut-être dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. C'était la semaine dernière. On a pu voir le film Chez nous. Il a été d'ailleurs suivi d'un autre film sur la même thématique, peu ou prou. On en parlera avec Jean-Pierre tout à l'heure. Tout d'abord, j'aimerais qu'on écoute un extrait de votre film documentaire pour comprendre la thématique de ce film et en parler avec vous.
Alors, qui dit parcage dit repli sur soi-même, dit un peu plus tard communautarisme, et inexorablement, eh bien, les gens vont finir par s'affronter. Souvent, lorsqu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, ou dans le Canadair parce qu'il n'y a plus d'eau, on se retrouve avec le feu. S'il y a le feu dans un quartier, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas senti qu'il y avait quelque chose qui se passait.
Ce devait être une manifestation pacifique en soutien à deux pompiers agressés hier soir. Le rassemblement a dégénéré lorsque des dizaines de manifestants ont fait irruption dans ce quartier sensible d'Ajaccio.
Alors voilà l'extrait de votre film documentaire, Marie Christiani. Le titre vient de ce que nous entendions scander lors de cette manifestation en 2015 qui avait suivi les événements dans le quartier des Jardins de l'Empereur à Ajaccio.
Oui. Alors tout à fait, cette fameuse expression qu'on on est chez nous, mais qui date, cette expression en fait, il faut la faire remonter à 2012. C'était lors d'une campagne menée donc par le Front National, et le Front National a fait rentrer cette expression on est chez nous, qui ensuite, voilà, s'est installée un petit peu partout sur le territoire. Et effectivement, en 2015, lors des événements des Jardins de l'Empereur, voilà, donc elle a été reprise. Mais c'est vrai que cet extrait est intéressant, parce que l'année 2015, elle est quand même, c'est une année charnière, une année de rupture au niveau international, national, local aussi, mais national, il faut remonter à janvier 2015 avec Charlie Hebdo, ah oui, et puis qui va le Bataclan en novembre. Il y a aussi le Imagine, l'affaire Imagine sur la plaine orientale, dans le Fiumorbe, qui est récupéré dans le film, la victoire des nationalistes aussi localement,
la fameuse,
tout ça,
la fameuse chanson choisie par un instituteur qui voulait que cette chanson soit chantée dans les différentes langues représentées par les enfants, les origines des enfants dans cette classe. Et finalement, évidemment, la fête de l'école a été annulée parce que les parents n'étaient pas d'accord.
Voilà, pour la chanter, ouais, en arabe. C'est le couplet en arabe
qui pose un problème.
Voilà, et donc voilà, dans le documentaire, ce qui est important, c'est de voir aussi le travail qui est mené par des gens comme Marilène Ménodes et Dominique Gambine à l'école Sandrès qui de Corté, puisque eux-mêmes, défenseurs absolus de la langue corse depuis des décennies, intègrent toutes les langues, enfin en tout cas les langues que les enfants qu'ils ont à gérer durant l'année parlent. Et
elle voilà, le dit dans le documentaire.
Elle le dit absolument, et c'est le contrepoint voilà, de ce qui s'est passé en 2015 à l'école de Prunet, de Fiumorbe. Donc.
Oui, elle le dit dans le documentaire, elle dit que c'était le postulat de départ. Avoir des classes bilingues, en langue corse, c'était surtout l'ouverture, s'ouvrir aux autres en partant de notre langue, de nos racines. Et lorsqu'on entend l'expression « chez nous », nous sommes chez nous, on est chez nous. C'est terrible parce qu'il y a quelque chose de rassurant, le cocon du foyer, le vivre ensemble. Et puis, il y a le paradoxe de « on est chez nous », ça veut dire « tu n'es pas chez toi ».
Tout à fait, voilà. Alors, le « chez nous », il est en même temps parce que... Le rapport au territoire est pour chacun, je pense que pour chacun de nous, c'est très complexe, c'est très compliqué. Je crois que le rapport à son chez-soi ou chez-nous est toujours singulier, il est toujours propre, finalement, à l'histoire de chacun. Et qui peut se dire propriétaire d'un territoire en particulier. Donc, le chez-nous, il est, et c'est pour ça que le chez-nous est donc le contrepoint du « on est chez-nous » et chacun est chez-soi, finalement, avec son histoire, voilà.
Quel rapport avec le documentaire et le livre, qui viendra beaucoup plus tard, puisqu'il est sorti en 2018, « Monfredo, l'histoire de France Bloch ». Femme résistante juive qui épouse Fredo Sérazin, communiste, militant, syndicaliste et résistant. Est-ce qu'il y a un rapport?
Objectivement, comme ça, non, il n'y a pas de rapport.
Mais nous, on trouve qu'il y en a un. Mais nous, on trouve qu'il y en a un.
Oui, mais bien sûr.
L'exclusion, le racisme, il y a
tout
plein de choses.
Tout à fait.
Le territoire.
Et en fait, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, en fait, bien sûr, tout ça est lié. Et en fait, aussi, c'est une façon... Alors, bien sûr, après, je suis journaliste, le documentaire, c'est encore autre chose, parce que le documentaire, c'est un peu, il y a quelque chose de, une démarche plus intime, plus personnelle que le reportage qui peut être fait comme ça au quotidien. Voilà. Et en même temps, c'est aussi à chaque fois, c'est quand même regarder le monde, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, sur ce qui me choque. Mais je suis tout aussi intéressée par la marginalité, le handicap, la précarité, tout ce qui fait que les gens vont être, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, à la marge. Et l'histoire de France Bloch. Là aussi ouvre alors après sur des symboles, sur des choses proprement bouleversantes, vraiment à tous les sens du terme. Et maintenant si vous voulez que je réponde particulier.
Marie-Lisanne, juste une chose, quand Marie dit on voit un lien chez nous et le livre et le documentaire de France Bloch, c'est interroger le passé répondra toujours présent. Ça veut dire ça en gros.
Oui, complètement. Parce que, alors, et la manière dont c'est écrit justement, puisque c'est quand même, c'est un récit biographique, on va dire, cette manière un peu de la tutoyer, très contemporaine, volontairement contemporaine, c'est pour dire au fond, cette histoire, elle s'est déroulée à 70 ans, mais c'est aujourd'hui. C'est en même temps, c'est une manière de la ramener sur des problématiques contemporaines.
D'autant plus que parfois, c'est même autobiographique, hein. Puisque vous racontez votre propre histoire lorsque vous êtes tombé sur cette photographie et vous lui parlez, hein, vous vous adressez à
absolument,
elle.
Absolument. Je tire une photo au hasard, je vois un visage qui me touche et puis à partir d'un échange très court avec le directeur du musée de la Résistance nationale, des questions brèves, des réponses brèves, en fait, moi, c'est des chocs. Il y a toute une série de chocs en me disant qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait, d'où elle vient. Voilà.
On va en reparler dans le détail. Marie-Christine, vous êtes notre invitée jusqu'à 18h sur RCFM. Nous parlons de votre film documentaire, le tout nouveau, intitulé « Chez nous », et de votre livre « Monfredo », paru aux éditions Arcane 17. Et j'invite tout le monde à découvrir cet ouvrage. Celles et ceux qui ont vu le documentaire que vous aviez réalisé il y a quelques années, où...
2005, c'est
ça ? Oui, 2005, absolument.
Waouh !
On verra avec vous pourquoi il est sorti qu'en 2015.
Qu'en 2005
Non.
En 2005 par rapport à 1995.
Par rapport à 1995, pardon. Oh. Pourquoi ce
tout ce qui s'est passé.
Pourquoi un matin, cette bête s'est réveillée au milieu de pantins, elle a tous émerveillé en proclamant partout haut et fort, nous mettons l'étranger dehors. Puis cette ogresse aguicheuse fit des clones imitatifs, leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leur tic-tac xénophobe, on chasserait tous les microbes. Attention mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydro-discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond. Bertolt Brecht nous l'a dit, il connaissait la chanson. Celle-là même qu'Hitler a tant aimé. C'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les juifs encore une fois que ces dangereux ariens brandiront comme un épouvantail dans tout leur sinistre éventail. Attention mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydro-discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydro-discours enjôleur dont les 100 000 bouches crache le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu petit, je l'ai vu, la paix.
La bête est revenue, Pierre Perret sur RCFM.
Toc Toc, c'est son année.
C'est l'album des chansons engagées de Pierre Perret. On retrouve notamment Lily et d'autres chansons.
Vous êtes un grand fan de Pierre Perret, Jean-Pierre.
Complètement. Je ne sais pas si ça vous a plu à Marie.
Mais elle la connaît, Marie, cette chanson.
Marie-Christiane, non ?
Marie, vous la connaissez cette chanson ?
Très belle chanson. Ah. Vous ne m'avez pas entendue. Vous la parlez donc à toute seule. Magnifique chanson, oui, toujours.
Toujours d'actualité.
Toujours d'actualité.
Il a les mots justes, Pierre Perret, ces choses-là.
1995, c'est l'année que nous avons choisi ensemble, Marie. Cette année-là, donc, vous vous retrouvez dans ce musée de la Résistance nationale. Vous êtes en train de terminer un documentaire. Ce documentaire, mais c'est étonnant quand même ce qui se passe dans la vie quand on vous laisse comme ça des pistes à suivre et vous prenez ces chemins ou pas, et vous avez pris ce chemin. Et
il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, en fait. Voilà.
Vous finissez ce documentaire sur Daniel Casanova.
Absolument, oui. Donc, je finissais le... Alors, un petit mot quand même sur Daniel aussi.
Bien sûr.
Puisque...
Vous aviez l'impression à cette époque-là qu'on ne parlait pas pas ou peu de ces femmes résistantes.
Bah, c'est une époque en 95 où la résistance féminine n'est pas du tout valorisée. Vraiment. Hein. Il y a très très peu de films, de documentaires. Et donc on commence un petit peu à s'y intéresser. Et donc à l'époque, donc moi je venais de rentrer à peine à France 3 Corse et c'est une proposition que j'ai faite à Jean-Marc Leitch, voilà, rédacteur en chef emblématique de France 3. Et il me dit tout de suite, ok, vas-y, pars. C'était pour le magazine Territoire à ce moment-là. Et mais je pars sur Daniel, pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est à cause du bateau qui porte son nom. Ah. J'habitais à ce moment-là sur le port d'Ajaccio et je voyais le bateau rentrer et sortir du port. Qui est cette fille à un moment donné? Je me suis dit, mais au fond, on connaît cette statue, le symbole de Daniel qui est connu à travers le monde. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus figé qu'une statue, finalement. Hein, voilà. Et j'ai eu envie de qui était cette fille. Ouais. Voilà, c'est pas. Et je suis partie là-dessus et en découvrant une personnalité fantastique. Et Daniel m'a conduite après au musée de la Résistance nationale, justement, à découvrir. Il m'éliorait des milliers de destins de femmes, d'hommes aussi, bien sûr, à raconter. Mais c'est vrai que c'est par Daniel que je suis tombée sur l'itinéraire de France Box et Ravin.
C'est étrange ce que vous dites. Quand vous dites qu'il y aurait des milliers de destins à raconter, vous savez qu'il y a une journaliste en ce moment qui a réalisé une suite de documentaires. Ils sont libres d'accès, hein, gratuit sur internet, vous tapez lesderniers.org et vous tombez dessus, sur des témoignages de déportés. Et elle a témoigné en disant ça devient addictif. J'ai tellement peur qu'on perde les témoignages de ces gens qui sont âgés et qui meurent les uns après les autres, malheureusement, que je ne peux plus m'arrêter.
Non, mais absolument, je comprends tout à fait cette position. Mais justement, se pose aujourd'hui vraiment le problème du passage de mémoire. Puisque, comme vous venez de le dire justement, il y a bientôt plus de témoins. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça qu'aussi justement, ce livre, en fait, qui vient donc 10 ans après le film, voilà, il y a aussi de cette idée-là. Après, c'est un regard particulier, une façon de raconter peut-être particulière, mais c'est une façon
différente
aussi
du film, hein, puisque vous aviez emprunté voilà, les voix de comédiens. En l'occurrence, il s'agissait d'Evelyne Bouix et Pierre Arditi.
Alors justement, pourquoi ce choix, Marie, de Pierre Arditi et Evelyne Bouix?
Je voulais un vrai couple qui raconte l'histoire d'un autre vrai couple. Et je voulais que ce soit des voix, notamment celle de Pierre Arditi, connues. Par rapport à une portée universelle, je dirais, voilà. Et la voix de Pierre Arditi me semblait convenir tout à fait, et Evelyne Bouix, donc, puisque je voulais que ce soit un vrai couple qui raconte voilà, l'histoire d'un autre vrai couple. Donc ils sont rentrés vraiment de manière
rien à voir avec leur judéité, quoi. Je veux dire, ils ont été séduits probablement tout de suite.
Mais... Oui, mais ça y a fait aussi. Notamment Evelyne Bouix. Voilà, ouais, puisque elle a vraiment suivi, suivi le projet. Je pense que mais ce qui les a aussi séduits, mais on pourrait presque le dire encore maintenant, même si l'histoire de France Bloch et de Fredo Sarrazin commence à être un petit peu connue, parce que Pierre Arditi était très surpris, puisqu'il est né, je crois, en 1940-41. Il ne connaissait pas du tout cette histoire, il ne connaissait pas notamment les parents de France Bloch, qui étaient quand même Jean-Richard Bloch, qui était un intellectuel majeur de l'entre-deux-guerres, Marguerite Herzog, la mère de France Bloch, qui était la sœur d'André Mauroy. Oui. Et cette histoire est sortie un petit peu de la mémoire collective. Elle y retourne un petit peu maintenant pour des raisons vraiment. Il y a une actualité vraiment autour de la famille de France Bloch, puisque la maison familiale qui est à Poitiers est devenue en février, est devenue officiellement une résidence d'écrivains. Et donc les médias nationaux, je dirais, en ont quand même pas mal parlé, puisqu'actuellement il y a un poète iranien et sa famille qui vit maintenant, voilà, qui habite dans cette maison avec d'autres aussi personnalités. l'actualité. Et on commence un petit peu à s'intéresser à cette histoire, voilà, surtout l'histoire de cette famille.
On apprend grâce à votre livre, Marie-Christiane, que de grands intellectuels ont fréquenté cette maison à l'époque de Jean-Richard Bloch, qui lui est tombé un peu dans les oubliettes.
Il est tombé un peu, on peut dire, bien sûr, il est carrément tombé, même, ouais. Voilà. Avec quand même une parenthèse, pour le grand public, oui. Les universitaires s'intéressent beaucoup
à son travail.
Donc il est quand même, il y a une association Jean-Richard Bloch qui est un petit peu en éveil. Mais c'est vrai que la maison familiale de Poitiers est un peu, on peut dire, d'une certaine façon, le carrefour intellectuel de l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que tout de Diego Rivera, Romain Rolland, bon, quand même prix Goncourt 1914, donc André Mauroy, Sacha Pitouef, tous les hommes de théâtre, puisque Jean-Richard Bloch écrit du théâtre, il parcourt l'Europe, il fait connaître des écrivains comme Panayotis Rati, Stefan Zweig, Walt Whitman aussi, le poète. Donc, Franz Bloch, effectivement, grandit dans un univers quand même assez incroyable, et qui fait que, d'une certaine manière, elle va, à un moment donné... elle est entourée de gens engagés et elle-même s'engagera au-delà quand même de l'imaginable.
Elle est élevée comme une femme de lettres, mais elle a d'autres désirs, d'autres envies, des envies de scientifique, de recherche. Et d'ailleurs, elle passera un deuxième bac scientifique pour devenir chimiste. Et c'est important, hein, pour son destin, puisque elle permettra de fabriquer des explosifs.
Tout à fait, voilà. Elle apprendra à fabriquer des bombes. C'est vrai qu'elle se rêvait. C'est une fille qui a un vrai talent d'écrivaine, vraiment. Elle est aussi musicienne, mais de manière quand même pas banale. Elle a un très très bon niveau de musicienne. Elle est pianiste. Elle compose de la musique et tout le monde pense c'est une artiste, Franz Bloch. C'est vraiment une artiste. Mais elle se met la barre tellement haut, et puis autour d'elle, il y a, je dis que des gens,
Oui, elle pense qu'elle n'a pas le niveau.
Elle pense probablement qu'elle n'a pas le niveau, mais elle est aussi passionnée par la recherche. Hein. Vraiment, je pense que personne ne l'a obligée à quoi que ce soit. C'est vraiment un choix qu'elle fait, sauf que peut-être, donc elle apprendra à fabriquer des bombes, et puis tout ça, nous sommes dans les années 30.
Jean-Pierre a posé une question tout à l'heure. Pourquoi découvrir cette photo en 1995 de Franz Bloch, et pourquoi sortir ce film en 2005?
Oui.
Ah. Parce que c'est dur, vraiment.
C'est ce qu'on voulait vous entendre dire.
C'est difficile. Je reçois ce choc. Je me dis, mon Dieu, cette histoire, elle est vraiment bouleversante. Je vais en faire... Mais en fait, c'est une fiction que je voyais. Oui. Finalement, quand le Guy Crivo-Pisco me raconte, me donne tous les ingrédients, moi je vois vraiment le film, quoi. C'est vraiment Scarlett O'Hara, vraiment, c'est un peu ça dans les années 30. Parce que, quand même, ce qui détermine, moi, ce qui m'emmène vraiment au bout de cette histoire,
c'est l'amour.
C'est quand même, c'est la lettre, vraiment, c'est l'histoire d'amour. In fine, s'il n'y avait pas eu l'histoire d'amour et cette lettre d'amour que Franz Bloch écrit à Fredo Sarrazin, donc 48 heures avant son exécution, cette lettre qu'il ne recevra jamais, je pense que voilà, c'est l'élément déterminant. Après, c'est bien beau. Moi, je suis rentrée chez moi. Comment je fais? Je sais qu'elle a un enfant. Je ne sais pas s'il est vivant. Et Guy Crivo-Pisco, c'est lui le messager. En fait, le temps passe. Et 4-5 ans plus tard, je reçois un coup de fil de Guy Crivo-Pisco qui me dit « Marie, je n'ai pas oublié que votre intérêt pour cette histoire. Figurez-vous que j'ai retrouvé Roland,
le fils
de Franz Bloch, Fredo Sarrazin. Il vit à Marseille, et il vit à Marseille en plus, vous voyez. Donc, j'ai appelé un jour Roland Sarrazin, qui s'est dit, mais qui c'est cette folle, qui vit en Corse, et qui veut faire un film sur mes parents, et puis, on tire un fil comme ça, et puis tout est venu, en fait.
On va écouter un extrait de ce film, si vous le voulez bien, avec la voix de Pierre Arditi. France Bloc appartient à l'élite intellectuelle, nous l'avons dit. Fredo Serrazin est un ouvrier métallurgiste, militant communiste tous deux. Ils se marient en mai 1939, mais sont vite séparés par la guerre et confrontés à la répression anti-juive et anti-communiste. France sera arrêté et condamné à mort en 1942, puis décapité à Hambourg en février 1943. Fredo, mobilisé puis renvoyé en usine, s'évadera par deux fois. Il sera finalement arrêté en 1944, torturé, exécuté, sans avoir pu lire la lettre que France lui a adressée avant sa mort, cette fameuse lettre dont nous parlions et que vous retrouvez dans le livre de Marie-Christiane, Mon Fredo. On écoute l'extrait du documentaire.
Bientôt, France, les lois anti-juives te mettent dans l'obligation d'arrêter tes activités de chimiste et d'enseignante. Nous étions dans la lutte depuis le début, mais la violence de l'ennemi exigeait plus. En janvier 1941, je suis toujours neutralisé à Sisteron. Roland a un an. Tu rejoins l'organisation spéciale, les futurs francs-tireurs et partisans. Par je ne sais quel stratagème, tu réussis sous une fausse identité à te faire engager au laboratoire d'identité judiciaire de la préfecture de police Quai des Orfèvres. Cet emploi discret de technicienne va durant plusieurs mois détourner l'attention de la police sur tes agissements clandestins. Rue Monticelli.
C'est là, tout là-haut, que Fredo et France l'ont vécu. Et c'est un peu plus loin, au 11, qu'habitait ma sœur aînée, Marianne. Pour Marianne, France, c'était un souci permanent, parce que France prenait des risques terribles. Elle ne disait pas tout ce qu'elle faisait, mais Marianne savait très bien qu'elle prenait de grands risques et elle avait très très peur pour elle et elle faisait vraiment tout ce qu'elle pouvait pour essayer de la faire partir, de la protéger. Et mais France voulait continuer à rester ici, à travailler ici avec la résistance.
Et Mon Fredo sont les deux premiers mots de la lettre d'amour que France lui adresse, donc le 12 février 1943, et le titre donc de votre livre, Marie-Christiane. Des années après avoir réalisé, écrit ce documentaire, vous avez eu le besoin, l'envie d'écrire ce livre, qui est très différent du documentaire, hein. Et c'est complémentaire, c'est une autre vision, c'est un autre prisme. On parlait de biographie, mais c'est aussi un roman, c'est aussi une autobiographie. C'est très très libre comme écriture. Pourquoi avoir eu le désir de le faire, Marie ?
Disons que quand même le livre, c'est la démarche est plus personnelle.
Alors vous avez dit que le documentaire était très intime déjà.
Était très intime, mais je ne me suis pas impliquée de la même façon. Si je vous lis quelques phrases, je pense que ça dit tout en fait. De l'extrait, mieux que peut-être ce que je dirais.
Allez-y.
Spontanément maintenant, c'est en une poignée de secondes, ce que je venais d'entendre de cette femme, de ce couple, répondait de manière sidérante à ma quête perpétuelle d'absolu. Intellectuelle, mariée à un ouvrier métallurgiste, résistante, fabriquant des bombes, juive, communiste, décapitée en Allemagne, avec en point final une lettre d'amour que son destinataire n'avait jamais reçue. Bien des années plus tard, toujours sous l'emprise de cette histoire tragique, romanesque, sublimée par la fulgurance et plus que tout l'accomplissement, en voici, à ma manière, le récit. Voilà.
Vous dites que c'est l'histoire de l'accomplissement.
Voilà, leur histoire. Oui, ouais. Derrière la tragédie, enfin à côté de la tragédie, c'est tragique, romanesque, et en fait, il faut se rendre compte que finalement, ils vont vivre ensemble combien de temps en fait ? 3 ans et demi.
Très peu, ouais.
Pas plus. Mais ils ont mille vies sur ce laps de temps. Ils ont mille vies. Fredo Serrazin va s'évader. D'ailleurs, elle en fait, pourquoi elle va au bout de tout ça, si vous voulez ? C'est parce qu'en fait, elle prépare son évasion, elle prépare une nouvelle. Tant elle veut le sortir de là. Et c'est pour ça qu'elle fait, elle fait toujours monter la barre, toujours un peu plus haut dans ses agissements.
Elle risque tout, disons-le. Elle va toujours au bout.
elle va au bout, et en plus elle est mère aussi, on peut se poser la question. Moi ça m'intéresse beaucoup aussi, le France Bloch en tant que mère, elle aime son fils, mais de manière autant qu'elle aime, de manière folle. Elle écrit dès qu'il dit un mot, elle l'écrit, enfin vraiment ça,
toute la liste des mots que Roland prononce à 18 mois.
Vous disiez, moi personnellement
je l'ai jamais fait, moi non plus.
Voilà, je n'ai jamais fait les photos. Ouais. Voilà, elle lui fait prendre 48 photos le jour de ses 2 ans, et elle écrit un poème.
Elle est folle de son enfant. Il n'empêche qu'elle dira dans cette dernière lettre ne rien regretter. Ne rien renier à son engagement, quitte à en payer le prix fort, donc la mort.
Oui, voilà, et qu'est-ce qu'elle dit dans sa lettre ? Tu sais, comme moi, que je n'aurais pas pu autrement que je n'ai agi. Voilà. Mais elle le fait, mais pour son fils aussi, c'est pour la liberté. C'est pour ça que c'est tellement, justement, ce passage de mémoire. Moi, il y a quelque chose qui m'a bouleversée quand je tournais le film avec Marie-Josée Chambard-Delauve. Après, moi, je l'ai dit, peut-être un peu exagéré, mais à un moment donné, Marie-Josée Chambard-Delauve, qui va croiser France Bloch dans la cour de la prison, France lui dit « Je sais que c'est fini pour moi. Je suis jugée, j'étais jugée comme terroriste. Elle a été condamnée à mort. Juive, communiste, terroriste, c'est fini pour moi. » Et à un moment donné, elle lui dit quelque chose qui ressemble à cette phrase « Je sais ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Mais dans 30, 40 ans, qui s'en souviendra ?» Voilà. Et moi, ça, c'est insoutenable encore aujourd'hui quand c'est comme si elle le disait à la seconde, quoi. Mais bon, 70 ans plus tard, je ne sais pas qui s'en souvient vraiment. Moi, j'ai le sentiment d'avoir.
Mais on s'en souvient grâce à vous participez.
Voilà, d'avoir fait à mon petit niveau ce que j'avais à faire.
Son fils, Marie. Roland, il n'a pas exhumé l'histoire de ses parents.
Ça a été terrible quand même pour lui, pour se construire. Il leur en a voulu. Je pense aussi le fait que aucun des deux ne se soit protégé. Je pense que pendant longtemps, pendant un moment, il en a voulu. Mais je pense que maintenant, vous imaginez que ce Roland, il a découvert ça il y a 60 ans passés. C'est-à-dire quand les archives de la police ont pu être concernant l'histoire de sa mère, en tout cas. Il savait qu'elle avait été guillotinée. On disait décapitée. Elle a été guillotinée en Allemagne. Pour des faits de résistance, il ne savait pas grand-chose de plus. Et il se prend toute l'histoire de sa mère avec les explosifs. Elle travaillait au 36 Quai des Orfèvres.
À 60 ans passés.
En même temps, à 60 ans passés. Roland a eu une carrière d'ingénieur. Il a 3 filles. Il vit à Marseille.
Mais c'est important.
Il nous faudrait, si vous permettez, l'un et l'autre, une chanson d'amour. Parce
Bien
que
sûr.
C'est une histoire d'amour
volontiers
entre Fredo et France. On écoute et on se retrouve, Marie.
Ooh. si loin, si loin, si loin de moi.
Jeanne. Alors c'est troublant cette chanson parce que, bien sûr c'est une chanson d'amour et d'amoureux, mais France Bloch aurait pu l'écrire pour Fredo.
Oui.
Quand bon, on entend c'était... « Je viendrai te chercher ».
Je viendrai te chercher. Bon, c'est une belle surprise là que vous me faites. Qu'est-ce que je dois dire?
Ben
que,
alors,
que l'amour est.
On l'a choisi parce que c'est une chanson d'amour et puis parce que évidemment c'est votre fille. Jeanne.
Oui, c'est ma fille et ça doit être obsessionnel. Donc l'amour dans la
c'est
famille.
L'histoire de famille.
Mais c'est très bien.
Oui. C'est une belle obsession. Hein.
Ouais.
Sa carrière démarre, Jeanne.
Oui. Oui, c'est tout à fait. Elle est en plein dedans avec tous les questionnements possibles. C'est dur la vie d'artiste.
Hein oui, c'est difficile. Pourquoi on l'a choisie ici? Pas parce que seulement c'est votre fille, mais parce que d'abord on l'aime beaucoup. Mais en plus, elle signe la musique de votre film documentaire chez nous.
Oui, c'était pas du tout prévu parce qu'on peut dire oh là là, c'est quoi? C'est que des. C'était absolument pas prévu. Et donc
avec Lina
Jeanne
Men, hein
et, et avec Lina Men, ouais. Victor, voilà. Ouais. Sorba, donc ça a été voilà, c'est arrivé comme un cadeau et finalement c'était pas du tout prévu et du coup ça donne ça donne une intimité, ça donne une sonorité effectivement qui est dont je suis finalement très très heureuse.
Mais il y a un fil conducteur parce que lorsqu'on écoute la musique du documentaire sur France Bloch et Fredo Sarrazin, eh bien il y a des voix comme ça et des nappes déjà, c'est drôle et on retrouve un peu ce même type d'ambiance dans le film documentaire chez nous.
Oui, ben je pense que en fait, je pense que c'est pas que je refais, je me retrouve un petit peu, je pense dans tout.
Non, vous refaites pas les mêmes choses, mais vous
oui,
savez, il y a une vraie ligne conductrice, il y a un vrai regard, il y a une vraie signature.
C'est une manière, ouais. Voilà, de regarder les choses. Je pense les gens et le voilà.
Alors, vous allez être invité, me semble-t-il, pour le livre. Là, prochainement.
Pour le livre, donc, après, je voudrais dire un mot. Je sais pas si vous allez me poser une question quand même sur chez nous. Il y a quelque chose d'important quand même dans la démarche.
J'ai plein de questions à vous poser. Mais bon, le temps passe. Mais allez-y, juste, je voudrais que.
Oui, l'actualité, ouais. C'est le. Donc, Paris, le 12 mai au mémorial de la Shoah pour le film, ouais. Et le livre. Voilà. Donc, ça, c'est quand même, je pense que c'est une première que le mémorial pour le mémorial de la Shoah d'ouvrir justement une page sur France Bloch, donc le 12 mai prochain.
Et voilà pourquoi il était important que vous le disiez. Et à propos de chez nous, qu'est-ce que vous vouliez dire avant qu'on écoute un extrait? Parce que je suis sûre que c'est en relation avec notre extrait.
Oui. Voilà, non, sur la démarche, justement, sur l'importance, je pense, de pas regarder notre société, enfin la société en général, la société corse en particulier, de manière binaire, de manière blanche ou noire. les choses sont tellement complexes, pas de manière partisane, parce que vraiment, s'il y a une chose dont je me fiche vraiment, c'est les partis politiques. On a d'ailleurs dans le documentaire vraiment les personnes qui sont à l'intérieur. Je peux vous dire que vraiment elles sont elles illustrent vraiment toutes les tendances, mais ça n'a vraiment aucune importance.
L'importance, non, c'est politique, c'est souvent le milieu associatif. Hein,
le milieu associatif, ouais. Mais avec des couleurs à droite, à gauche, absolument. Nationaliste, enfin vraiment peu importe. Mm. Mais dans une démarche progressiste, humaine, tout simplement.
D'ouverture. Je savais que vous alliez dire ça, la preuve avec Ange Cipriani.
Quartier, c'est ma vie au quotidien, j'y suis 7 jours sur 7. Jour férié, dimanche compris. J'ai une laverie dans un quartier sensible où les gens n'ont pas trop d'argent, où les gens n'ont pas de machine à laver, souvent chez eux, où il n'y a pas la possibilité de les installer parce que les murs, ils font 80 cm d'épaisseur. Quand il arrive le plombier qui veut mettre la mèche pour installer quoi que ce soit, j'ai des clients qui s'appellent Mohamed, Omar, Annie et José. Il y a de tout, quoi. J'ai ouvert aussi une pizzeria à snack dans un quartier où ça rassemble beaucoup de gens. On aurait pu faire d'autres choses. Mais bon, moi, j'aime aussi beaucoup le social. J'ai été éducateur sportif, je suis père de famille. Voilà, on essaye d'aider les gens au quotidien, tout en gagnant notre vie, en essayant de gagner notre vie, parce que c'est pas toujours facile. Mais bon, j'aime ce que je fais tous les jours.
Voilà un homme qui tente, tout en travaillant, gagnant sa vie, de créer des lieux où tout le monde peut se retrouver. Intéressant aussi.
Ah, c'est intéressant. Ouais. Franchement, qui me fait découvrir Ange Cipriani, c'est Moujib Garci qui intervient à un moment donné dans le documentaire, qui est éducateur de santé à Gouagne-aux-les-Bains et qui en fait passe.
Qui est l'homme le plus célèbre des Deux Sceaux ou des Deux Sèvres.
Absolument.
Il le dit, hein.
Oui. Voilà. Et un jour, il m'appelle, il me dit « Marie, il faut que tu viennes absolument pour ton projet, il faut que tu viennes chez Ange, c'est génial, il y a tous les jeunes de Saint-Joseph qui viennent, voilà. » Donc,
c'est comme ça que vous l'avez découvert.
C'est un lieu, c'est comme ça que je l'ai découvert. Maintenant, c'est vrai que Ange, à son niveau, Félix Bonnard,
qui est animateur territorial,
formidable au Jardin de l'Empereur, Marilène Ménod, ouais. Dominique Gambine dans leur accordé. Ouais. Nadia Améziane.
Il y a le point de vue de Nadia Améziane Federson, qui est archéologue.
Oui.
Et alors là, c'est super parce qu'évidemment, elle s'approprie, se réapproprie la terre, l'histoire. Et ça, c'est très intéressant. Vous démarrez avec elle d'ailleurs.
Ah, oui, ouais. Je pense que c'est Nadia qui fait que ce film est possible à faire. Puisque je voulais de la distance. Elle est préhistorienne. Son site de recherche est à 1500 mètres d'altitude.
Sur le plateau d'Alde.
Donc vraiment, elle est née en Corse, sur la plaine orientale. Elle est mariée à Fred Federson. Elle a tout absolument pour construire après, pour construire le film. Mais qui n'a pas été facile à faire quand même, franchement. Rien n'est facile. Ouais. Rien n'est facile.
Le discours de Nadia est intéressant parce que elle dit qu'avec son mari, des fois, pour ses enfants, elle a un petit peu peur. Elle dit que tout n'est pas simple, hein, comme la réalisation d'un film.
Elle dit qu'il y a des jours où ils sont optimistes, des jours où ils le sont moins. Ouais. Pas de discours manichéen. Et c'est vrai que ça n'est pas simple. Et je pense qu'elle pose des questions. Chacun, je pense, sont en attente de quelque chose. Elle est corse, Nadia, est corse, voilà. Elle pose la question, c'est intéressant, sur la communauté de destin. Voilà, je pense que elle a des choses à faire, elle a des choses à dire, et je pense qu'elle se sent peut-être, comme d'autres, un peu en dehors, voilà. Et donc ça, c'est une question intéressante. Il n'est pas question de politique, mais c'est une question intéressante pour tous les partis politiques.
Alors, Isabelle, Isabelle
Siméon, oui, qui a réalisé Fragments d'une réalité corse.
C'est un film qui est passé juste après le vôtre,
oui. Et donc j'ai rencontré Isabelle Siméon et je lui ai posé
un extrait du film
tout d'abord, et puis après je vous dirai la question que je lui ai posée.
Il y avait vraiment, il y avait des Maghrébins, des Italiens, des Corses, des Français. Il y avait tout. On a bien vécu parce que c'était un peu notre village. C'était le gros village. On était plus de 900 locataires. Des grosses familles, on montait les uns chez les autres, on jouait ensemble, ils venaient chez nous, on montait chez eux. C'était vraiment, nous on appelait ça, je disais toujours, on est au village, hein. Voilà, c'est chez nous. Et on a vraiment tous, je pense, tous ceux qui ont vécu là-haut, ont de très bons souvenirs. C'est mes amis encore aujourd'hui, hein. Et c'est super.
Alors, j'ai rencontré Isabelle Siméon et je lui ai posé la question à savoir pourquoi avoir choisi ce thème. Fragment d'une réalité corse, Isabelle Siméon, et pourquoi avoir écrit et choisi ce thème ?
Alors, le thème, c'est un choix de France 3. C'est une collection. Quand on m'a proposé de travailler sur un documentaire sur ce thème, ben, forcément, ça m'a parlé parce que ça fait partie des sujets sur lesquels je me questionne et je questionne dans mon travail de documentariste. Et l'idée pour moi, c'était vraiment de raconter la vision que j'avais personnellement sur l'immigration en Corse, qui était de partir du postulat de Gilles Siméon et de pas mal d'autonomistes au départ, de dire que la Corse a vocation à fabriquer des Corses, comme c'est un postulat dans lequel je me retrouve. C'était de ce point de vue-là que je voulais raconter l'histoire.
Donc vous avez parlé du verre à moitié plein plutôt que du verre à moitié vide.
Voilà. J'ai voulu raconter l'histoire, ou plus exactement, j'ai voulu aller à la rencontre de gens pour qui c'est une réalité, cette notion du verre à moitié plein.
Une réalité, nous dit Isabelle Siméon, donc uniquement des points de vue positifs d'intégration en Corse, partie du postulat, la Corse a vocation à fabriquer des Corses.
Oui.
Vous pouvez réagir là-dessus.
Oui, Marie. Moi je réagis, moi je respecte vraiment le travail de tout le monde, et notamment et les gens qui ont participé à ce documentaire. Moi, je le dis, moi, tout à fait, vraiment, à l'aise, je ne suis pas dans cette démarche. Moi, faire un travail où il n'est question que de voir les choses tout en rose et... Non, la Corse, ça n'est pas des bisounours, si vous voulez. Nous ne sommes pas plus racistes en Corse qu'ailleurs. Alors là, je le dis aussi...
Mais on n'est pas moins.
Mais on n'est pas moins. Donc, offrir une vision...
Elle le dit, Isabelle Siméon.
Elle dit,
je ne nie pas un certain racisme en Corse, mais j'avais envie de montrer que voilà, il y a
non, des... mais ouais. Après, les gens sont libres. Voilà, les gens sont libres. Moi, si vous voulez, voilà. Et donc, je pense que il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Moi, ça n'est pas ma vision. Ça n'est pas ma vision. Et je pense que, si vous voulez, ne pas voir les problèmes, ça n'est pas rendre service en même temps à la société.
Marie, à un moment donné, il faut aussi parler des trains qui partent à l'heure. Il n'y a pas que des trains qui ne partent pas à l'heure aussi. Ben
c'est un peu ce que il me semble
ce que
j'ai montré. J'espère, parce qu'autrement,
non, mais c'est ça.
Voilà. Autrement, c'est échoué ne pas le montrer. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans le documentaire. Mais voilà, moi je pense que les choses, chacun a son point de vue. Et puis moi ce travail, il vient aussi, si vous voulez, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'en intervenant sur le terrain au quotidien sur ces questions-là, on est toujours sur des visions très courtes, sur des faits divers, le bon, le méchant, le blanc, le noir. La vie n'est pas comme ça, les gens ne sont pas comme ça. Par contre, il y a eu de vrais problèmes. Et l'année 2015, je pense que on pourrait énumérer toute la série de problèmes qu'on a.
On le fait souvent dans cette émission parce que c'est une année qui est choisie très très souvent, 2015.
Et en même temps, les choses, je pense que je les ai vues un petit peu en couleur.
Les deux titres, on aurait pu en faire qu'un d'ailleurs. Chez nous, fragment d'une réalité corse. Ça aurait pu être un seul titre.
Tout à fait. Je pense qu'il était question d'un autre titre dans le deuxième documentaire et qui a été changé.
Histoire d'amour.
Au Corse, île d'amour. Ouais. Je pense que c'est bien d'avoir changé, de ne pas avoir gardé le titre.
Bon,
On a bien compris votre point de vue. Il y a un passage très émouvant dans votre film « Chez nous ». C'est le passage où l'on entend le comédien Pierre-Laurent Santelli dire ce texte de Mathieu Ambroddi, « Le chant corse ». Et c'est évidemment l'histoire du trait d'union entre les terres et entre les cultures. Alors, je ne sais pas si on a le temps de l'écouter. Est-ce que vous avez envie de l'écouter? Parce que c'est absolument merveilleux.
Oui, c'est très très beau. Et c'est l'idée, d'ailleurs,
il me semble.
Le texte, voilà, quand on dit quelle est l'idée du film, au départ, j'ai ce texte-là.
On se quitte avec ça, Marie?
Oui, on se quitte.
Et pour merci mieux pour se retrouver.
Ce joli moment.
Et à bientôt.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Marie-Christiane.
Retournons sur les pas de Mathieu Ambroddi, en 1893, sur les pentes sud de l'Atlas. Lors d'un campement où des chants se succédaient tout au long de la nuit, jusqu'au dernier, entonné par un chanteur kabyle. Dès les premiers sons, Mathieu Ambroddi ressentit un bouleversement profond.
Je le vois encore, tourné vers la plaine. Il paraissait étranger à tout ce qui l'environnait. Sa poésie était triste, comme presque toutes les poésies arabes. Je ne remarquais point de strophes. C'était des vers détachés, de la longueur des tertiles. Il débutait lentement. Sa voix montait, puis descendait doucement pour terminer dans un murmure lent, monotone et triste. Cet accent plein de tristesse trouvait un écho dans ma poitrine. C'était la voix de la terre corse, qui venait de parler en moi. Nos sources claires, les feuillages harmonieux de nos vallons, toutes nos campagnes parfumées de soleil et de silence chantaient dans la mélopée de ce kabyle. Singulière puissance évocatrice d'un passé si lointain. Mystérieuse harmonie qui relie, comme un trait d'union, deux époques séparées par 2000 ans de lutte, de bouleversements profonds,